bienvenue dans ITCast épisode 5 du vendredi 23 janvier 2015. Aujourd'hui, je vous propose un entretien enregistré hier soir, jeudi 22 janvier donc, au lendemain des annonces concernant Windows 10, Surface Hub et HoloLens. Dans une seconde partie, il sera question des DevOps et donc de la manière de travailler ensemble, développeurs et IT, pour le bien des projets informatiques en général. Donc pour tout cela, j'ai reçu trois collègues, Stanislas Costana et Arnaud Lheureux, qui sont les habitués IT de ce podcast. Et puis un troisième collègue qui s'appelle Étienne Margraff, qui est un évangéliste développeur et qui a travaillé avec Stanislas sur le sujet DevOps, et notamment en préparation des futurs Tech Days. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos complémentaires et pointeurs utiles concernant cet épisode sur le site aka.ms/itcast. Dans la partie droite, vous trouverez donc le pointeur vers l'article qui est positionné dans mon blog. Sans plus attendre, place à Windows 10 et à DevOps. Donc bonjour, je suis Pascal Solière et puis je suis aujourd'hui dans les locaux de Microsoft à Issy-les-Moulineaux avec Arnaud Lheureux.
Bonjour Pascal.
Avec Stanislas Costana.
Bonjour Pascal.
Donc deux habitués de ce podcast. Et puis Étienne Margraff.
Bonjour.
Salut Étienne. Donc qui est développeur.
Évangéliste.
Voilà, et évangéliste et développeur.
Voilà, évangéliste développeur, principalement sur les techno web, mais bon, je touche un petit peu à tout.
Voilà, et particulièrement à Minecraft, si je ne m'abuse.
Oui, un petit peu, ouais, sur mon temps libre, et parfois même dans le cadre de ce que je fais ici.
Voilà, donc Étienne est avec nous ce soir pour parler d'un sujet qui est assez répandu de nos jours, hein, qui est assez à la mode, mais c'est pas parce qu'il est à la mode qu'il n'est pas utile, et qui s'appelle DevOps. Puisqu'on va parler dans une deuxième partie de ce podcast de DevOps, de qu'est-ce que c'est que DevOps, quel en est le principe, et puis ce que vous faites autour de DevOps, hein, surtout Stanislas et Étienne qui travaillent ensemble là-dessus.
Tout à fait.
Et avant de parler de DevOps, on va dans une première partie rappeler les grandes annonces autour de Windows 10 qui ont été faites hier,
le 21 janvier,
voilà, à Redmond. Dans les locaux de Microsoft et qui ont été assez impressionnantes. Donc voilà. Donc je ne sais pas qui va commencer à parler là-dessus. Il y a un premier sujet parmi les annonces d'hier qui concerne l'interface graphique. Le nouveau menu démarrer, ça vous inspire ?
Bah, globalement, on peut peut-être dire que c'était une conférence qui était dédiée à Windows 10. Et donc Windows 10, effectivement, la première chose qu'on a vue, c'était la nouvelle interface. Arnaud, qu'est-ce que tu en as retenu ?
Eh ben, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, des gens sous Windows 8 n'aimaient pas le menu démarrer en plein écran. Certains étaient nostalgiques de l'ancien menu démarrer. D'autres aimaient le menu démarrer en plein écran. Ce qu'on s'est dit pour Windows 10, c'est que plutôt que de choisir pour vous, on allait vous laisser le choix. Donc on a effectivement la possibilité maintenant d'avoir un menu démarrer sur lequel on peut jouer sur la taille, en mode classique, toujours une partie de l'écran, et puis on peut même l'étendre. Comme en mode Windows 8, complètement sur l'écran si on a envie. On a toujours le bénéfice des tuiles dynamiques où on peut avoir les informations, des applications dynamiques, donc avoir la météo pendant qu'on est en train de démarrer Word, par exemple, des choses fondamentales comme ça. Sur l'expérience utilisateur, pareil, plein de petites choses dans l'interface graphique pour être plus productif, dans le glissage des fenêtres d'un côté à l'autre de l'écran, redimensionnement dynamique, etc. C'est assez sympathique. Et puis, point fondamental, le choix entre le mode tablette et le mode PC. On était toujours un petit peu entre deux mondes. Par exemple, un cas qui est assez éloquent, qui est assez sympa, c'est le cas de Surface Pro 3. Donc tu vois que quand tu vas retirer le clavier qui est avec la tablette, que tu vas vraiment le transformer en mode tablette, et bien même l'interface graphique va devenir purement le mode tablette où tu vas pouvoir avoir les tuiles classique du menu démarrer, bien plus pratique pour utiliser avec des doigts, mais aussi les applications vont changer de comportement et vont pareil être adaptées à une taille de doigt. Donc c'est beaucoup plus adapté que le mode souris, etc. Donc ça touche automatiquement, pas besoin soi-même de bricoler et de faire d'opérations manuelles, donc super pratique, ça s'adapte vraiment à ton mode de vie, quoi.
Pas de révolution, plus une évolution qui va dans le bon sens, effectivement, celui du choix. Et celui de rendre l'usage contextuel par rapport à la présence ou pas d'un clavier. Arnaud l'a très bien dit. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous a présenté du coup également la version qu'on appelle moderne UI, on va dire la version interface moderne spéciale tactile d'Office, donc prochaine génération, avec quelques exemples effectivement de l'utilisation en version connectée avec un clavier et en version non connectée avec un clavier. Du coup, ça peut peut-être nous permettre de rebondir sur une chose qui s'appelle les Universal Apps.
Exactement. Et en fait, ce qui a été dit pendant la présentation, c'est que c'est la même application qui va tourner sur un PC qui tourne sous Windows 10 ou sur un téléphone. Et donc ça, c'est un avantage pour nous chez Microsoft pour créer nos applications pour les utilisateurs, mais ça va être aussi un avantage pour les développeurs qui fournissent leurs applications et qui ne sont pas forcément chez Microsoft, pour avoir un seul développement au final, quoi. Donc c'est vraiment super sympa, et on a vu que ça rendait plutôt bien. Là, c'était le même code, ce qu'il a annoncé. Il y a des petites modifs à faire de temps en temps, des petites adaptations, mais globalement, ça marche plutôt bien.
Et comme exemple, ils ont montré donc le nouvel Outlook, qui marchait sur le téléphone et sur la tablette, et puis l'application des photos, la nouvelle application d'affichage des photos, qui était pas mal du tout, et ils ont montré en parallèle entre le tablette et téléphone.
Et puis, tant qu'on est sur le téléphone, peut-être aussi annoncer que, donc, du coup, la prochaine, ce qu'on appelle Consumer Preview de Windows 10 sera disponible la semaine prochaine en téléchargement, et que courant mois de février, ce sera une version, on va dire, bêta de Windows 10 pour les téléphones, qui sera disponible effectivement pour l'ensemble des développeurs dans un premier temps, on va dire l'ensemble des testeurs qui ont envie d'essayer cette nouvelle mouture de Windows en environnement smartphone.
Et c'est ça aussi qu'on a vu, c'est qu'on est vraiment, il l'a dit d'ailleurs au début de la conférence, on est vraiment passé dans un mode où on veut le plus vite possible montrer aux gens, avoir du feedback, qu'ils puissent le tester, l'utiliser et tout ça, et c'est vraiment ce qui est retranscrit par ça, quoi.
Et on en parlera tout à l'heure, je pense, de la voix des gens.
Puis il y avait aussi un point sur l'interface graphique qui était pas mal, j'ai trouvé personnellement, on a remplacé la barre des charmes par un Action Center qui a des choses vraiment utiles dedans, comme l'accès directement aux options du Wi-Fi, ce genre de choses-là.
Et puis on peut même avoir des interactions directement avec des applications, pour faire des petites, répondre à des textbox, par exemple, c'est possible aussi via le Action Center.
Donc ça ressemble un peu aux espaces de notification des téléphones qu'on trouve sur les mobiles en général.
Exactement. D'ailleurs, si on est sur les mobiles, il y a une chose qui vient du mobile et qui arrive sur le Windows, sur PC et tablette, c'est cette fameuse Cortana. Cortana arrive, effectivement, a été démontré hier, dans Windows, on va dire, client, Windows PC, Windows tablette, on l'appelle comme on veut. Donc ce Windows 10, désormais, effectivement, intègre Cortana au même titre qu'on peut avoir Cortana sur des téléphones Windows Phone 8.1. Donc Cortana, pour rappel, c'est l'assistant personnel qui, effectivement, vous aide vocalement, entre guillemets, à répondre à certains besoins et à organiser, on va dire, votre activité.
Donc c'est une plateforme qui sera disponible, après c'est un peu comme la voiture, sera à vous d'inventer la vie qui va avec.
Exactement. Et ça, les Américains n'y ont pas pensé, ce slogan, tout à l'heure.
Eh bien, je m'en pressais de le redéposer si possible.
Ouais. Mais en anglais, cette fois-ci.
En tout cas, c'était, ce qu'on a vu, la partie qui était une démo live, c'était assez impressionnant, là, ça marche plutôt bien quand même. C'est assez naturel l'interaction, je trouve, moi, qu'il a avec le PC. On peut se demander dans quel contexte ça peut être. Est-ce que dans le contexte de l'entreprise, quand on est en open space, on en parlait avant, est-ce que là ça peut être utile? Je pense que c'est plutôt quand on est chez soi et qu'on on a besoin d'interagir avec ça, ça peut être pas mal. Il y a pas mal de contexte dans lequel ça peut être utile.
Tu peux imaginer que tu as plein de fenêtres remplies sur ton bureau, plein de trucs Excel de tous les côtés, et tu veux surtout rien toucher parce que tu es en train d'utiliser une petite formule super compliquée. Du coup, tu parles à Cortana qui fait un truc dans son coin sans modifier ton truc Excel, peut-être que ça marche bien comme ça. C'est pas trop scénario.
Tu penses à des exemples comme Cortana, définis-moi un rendez-vous demain, réveille-moi à telle heure, et rendez-vous chez le dentiste à telle heure.
Ouais, ça me touche à des applications métiers, tu vois. Ça...
Effectivement, on verra la vie qu'on aura avec, mais ça inaugure en tout cas des choses qui peuvent être intéressantes.
Ok, sur le téléphone, il y a également des nouveautés qui étaient assez intéressantes, comme le redesign, enfin la nouvelle version de l'application des paramètres, donc une application universelle pour les paramètres, et un peu plus organisée, disons, que celle qu'on connaît actuellement sur Windows Phone 8.1.
Ouais, je pense même qu'on peut dire organisée, en fait, pas voilà. Un peu plus.
En fait, sur Windows Phone 8.1, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que les fonctionnalités sont venues s'enrichir, en fait, elles ont rempli une pile, une liste, qui n'est pas organisée par ordre alphabétique ni par thème, ce qui fait que, comme au départ, c'était relativement simple, il y avait peu d'options, c'était facile à s'y retrouver, aujourd'hui, c'est clairement perfectible, donc du coup, les équipes produits ont pris ce point et du coup ont réorganisé effectivement un centre de configuration qui est un petit peu plus logique et mieux organisé que simplement une liste qui n'est même pas alphabétique.
Et puis même, il y a des icônes, et mine de rien, ça permet de se repérer facilement visuellement, parce que le texte, c'est pas aussi simple quand on va dans une liste longue. C'est un petit détail, mais moi, je trouve que ça apporte pas mal, ça.
Et oui, c'est des petits trucs. Hein.
On est toujours un petit peu visuel, là.
Voilà.
Et puis, il y a le fameux continuum. Donc, le principe selon lequel on peut commencer une tâche sur son PC, par exemple, et la continuer sur son téléphone, ou réciproquement. Et donc, retrouver le document, voir les SMS, je crois. Sur le PC.
Si on parle de documents, je crois qu'il y avait peut-être des choses à dire sur Office et Windows 10 sur le phone.
Oui, complètement. Oui. Donc la nouveauté, c'est que l'annonce importante, c'est que non seulement on aura PowerPoint, Excel, Word, donc les trois applications principales, et Outlook sur le téléphone, mais ça sera inclus, donc gratuit, pour les téléphones Windows 10 et les tablettes, les petites tablettes, donc a priori inférieures à 8 pouces.
Tu parles de gratuit, on a quand même oublié de dire.
Eh oui.
Une annonce qui mine de rien, n'est pas désintéressante, c'est que la mise à jour vers Windows 10 sera complètement gratuite pour tous les possesseurs de licences personnelles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, et ce pendant la première année de Windows 10, c'est-à-dire que dès que Windows 10 sera disponible en version finale, les utilisateurs, les propriétaires d'un Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 auront 365 jours pour faire la mise à jour gratuite vers Windows 10, et ce pendant donc une année.
Et donc l'idée là-dedans, on a entendu le terme Windows as a service, qui voudrait dire qu'on achète Windows une fois et on a un Windows à jour tout le temps par la suite.
On peut voir ça comme ça.
C'est ce qui est prévu, hein, toute la durée de vie du périphérique, le Windows sera mis à jour.
Toute la durée de vie du périphérique, voilà, le tout le temps étant limité à la vie du périphérique.
Ouais. Gros changement de donne. Hein.
Exactement. Cortana, on en a parlé. PowerPoint sur le téléphone, on en a parlé avec Office.
Ah, bah si, il y a quand même une chose qui est commune, enfin une chose qui était annoncée, qui était relativement nouvelle. Hein. On a entendu beaucoup de rumeurs. Hein. Ce fameux projet.
Project Spartan. Voilà. Donc ça reste un nom de code, ça c'est important à dire, je pense. Mm-hmm. C'est pas le nom final, en tout cas, c'est pas validé pour l'instant, donc tout est encore possible. Ce qu'on a vu, c'est. On a mis en avant deux choses. On a mis en avant l'interface, déjà l'interface qui change pas mal. Et surtout des fonctionnalités intéressantes, alors comme par exemple le fait de pouvoir prendre des notes sur une page. Donc ça c'était une première chose, de pouvoir ajouter des indications, un petit peu comme ce qu'on ferait dans un document Word. Et ça peut être pas mal, parce que ça peut arriver de temps en temps de se dire, on lit un article et puis on se dit, ah ça c'était pas mal pour telle raison, on met une annotation, comme ça on sauvegarde la page et on sait après pourquoi on avait trouvé ça intéressant et à quel endroit précisément. Et surtout, ça va dans OneNote après, donc ça c'est plutôt intéressant. Et il y a un mode également qui est le Reading Mode, puisque au final, beaucoup de choses qu'on fait sur Internet, principalement, en tout cas à mon sens, c'est de la lecture. Et tous les sites ne sont pas forcément formatés de la même manière. Et l'objectif du Reading Mode, c'est de prendre juste le contenu qui est intéressant, de nous l'afficher correctement, qu'on puisse le lire facilement.
Alors, juste pour préciser, le Reading Mode n'est pas une nouveauté en tant que telle de Spartan, parce que c'est déjà présent en fait dans les versions qu'on appelle modernes d'Internet Explorer depuis Windows 8 ou 8.1, à ma connaissance. 8.1, à ma connaissance. Où effectivement, sur certaines pages, on avait à côté de la barre d'adresse le petit symbole livre ouvert, et quand on clique dessus, effectivement, on passe au mode lecture. C'est juste que là, en plus, il y a encore amélioré avec des capacités de sauvegarde offline pour consultation, effectivement, dès qu'on est dans un avion ou autre.
Et on a également Cortana qui est intégré directement dans le navigateur, qui nous permet de faire des recherches plus facilement. Donc ça peut être un autre scénario d'utilisation aussi.
Cortana est intégré dans Spartan, et tu en as parlé, donc l'intégration avec OneNote, qui pour moi, c'est un must. Quoi. C'est rien que pour ça. J'utiliserai Spartan. OneDrive, une petite chose intéressante avec OneDrive qui évidemment se retrouve partout, hein, en termes de synchronisation entre les différents appareils, c'est la possibilité de mettre dans OneDrive ses musiques personnelles, et donc de les jouer à partir de OneDrive.
Il faudra voir comment c'est implémenté, comment ça fonctionne dans les détails. Moi, personnellement, je fais ça depuis pas mal de temps, mais bon.
Oui, on peut très bien avoir ce qu'on veut comme fichier dans OneDrive. Mais là, l'intérêt, c'est que c'est C'est l'application musique qui le fait, ça. Oui, tu le fais déjà, enfin, vu comme un répertoire, quoi.
Ouais. Donc, j'ai pas compris sa nouveauté, mais il n'y a pas dit beaucoup de choses, en fait. Donc, il y aura sans doute des précisions sur le scénario d'ici quelques semaines. Mais on découvrira ça avec plaisir.
C'est pareil, la fonctionnalité doit être annoncée d'ici un mois ou deux, dixit. Joe Belfiore qui a présenté ceci.
Et il parle de synchro, donc peut-être qu'après tu le mets dans OneDrive et pof, tu l'as sur tous tes devices de manière simple, mais bon, c'était un peu le but de OneDrive.
Ah ouais, est-ce que le téléphone pouvait jouer de la musique depuis OneDrive?
Non.
Peut-être ça. La Xbox, peut-être aussi, je sais pas.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier la Xbox.
L'avenir.
D'ailleurs,
qui est dans le...
d'ailleurs
très bonne transition, Pascal.
Donc je sais pas, je suis pas un spécialiste de la Xbox, donc Étienne, tu sais peut-être plus que moi.
Alors donc il y avait deux choses intéressantes sur la Xbox principalement. La première, c'est l'application Xbox qui fonctionne plus uniquement que sur Xbox, mais sur tous les devices qui font tourner Windows 10, enfin toutes les machines qui font tourner Windows 10 en tout cas, qui ont au moins un écran évidemment. Et qui va permettre de voir ses amis, d'avoir une interaction qui était réservée à l'Xbox jusqu'à présent, de la voir à partir du PC. Donc ça peut être pas mal. Et dans cette application-là, il y a une nouveauté qui permet de faire ce que font déjà pas mal de gens qui sont des joueurs assidus, c'est d'enregistrer des vidéos de ce qu'ils font et ensuite de les rediffuser. Donc les rediffuser à leurs amis via cette application-là. Et il y a aussi quelque chose qui est pas mal dans ce cadre-là, qui est qu'on peut activer un enregistrement permanent des 30 dernières secondes, ce qui fait que quand on arrive à un moment où on dit « c'était énorme ce qui vient de se passer, j'aurais dû l'enregistrer », on peut sauvegarder ces 30 dernières secondes et du coup les garder et les partager avec ses amis. Donc ça peut être... C'est plutôt intéressant, cette fonctionnalité-là, particulièrement, je trouve. Et la deuxième, c'est le fait de pouvoir faire du streaming de jeux à partir de sa Xbox sur son PC, par exemple. Donc ça veut dire qu'on peut jouer sur son PC à un jeu qu'on avait dans la Xbox. Ce qui fait que on peut très bien profiter d'un écran qu'on aurait qui serait différent ou pouvoir jouer à un autre endroit dans sa maison ou ce type de choses-là. Donc ça, c'est aussi intéressant. On attend d'avoir un peu plus de détails sur comment ça fonctionne exactement, mais c'est quelque chose qui est annoncé, qui est plutôt pas mal.
Donc là, on est arrivé dans la partie maintenant un petit peu plus qu'on qualifie du lourd de l'annonce de cette conférence. C'est que effectivement, Microsoft est une entreprise de services, de logiciels, mais aussi de périphériques. Et du coup, on en a sorti un gros. On a annoncé une grosse surface, dont le nom en fait est la Surface Hub, qui, pour faire simple, est un gros écran, un grand écran de 84 pouces, qui a une résolution 4K.
Et ça, c'est cool.
Ça, c'est cool. Qui intègre en fait basiquement un PC en fait, pour faire simple, et qui intègre donc des caméras, bien entendu des haut-parleurs, des micros, du Bluetooth, du NFC, et qui surtout sur ces 84 pouces de diagonale et sur cette résolution de 4K est également une interface qui est tactile, utilisable avec un stylet. Donc vous l'aurez compris, c'est un outil qui est clairement orienté, on va dire, pour les entreprises dans des salles de travail collaboratives ou de visioconférence. Visioconférence, du coup, c'est le périphérique qui est optimisé pour Skype for Business, qui est notre solution d'entreprise de collaboration et de visioconférence
sur l'évolution de Link, du Link actuel.
On va dire le nouveau nom du futur Link. Et on voit bien un petit peu le rapprochement et le parallèle entre le monde personnel Skype et le monde professionnel Skype for Business, sachant que les deux aujourd'hui sont déjà interconnectables. On peut déjà connecter du Link avec du Skype. Et donc du coup, cet écran qui est donc cet écran géant qui s'utilise avec un stylet est bientôt également un écran qui est multi-touch. On utilise la technologie de PPI. Donc du coup, ça va faire un bel équipement à mettre dans des salles où les gens travaillent avec d'autres personnes à distance, sur lequel ils veulent partager des idées, etc. Tout ce qui est défini, dessiné sur ce périphérique peut bien entendu être partagé au sein de l'équipe, peut-être enregistré, etc.
Ouais, c'est parfait pour des brainstorming, des choses comme ça, je pense.
Des réunions d'équipe, effectivement, du travail vraiment collaboratif, où les gens ne sont pas forcément physiquement présents. Et puis, on a vraiment le travail de création avec, effectivement, une interface tactile, un stylet, sur un truc qui est quand même assez sexy.
Et on le retrouve derrière le nom, en fait, cette notion de regroupement, parce que le hub, c'est ça, c'est là où tout le monde va va se retrouver, ça concentre pas mal de choses et de fonctionnalités. Et je pense que c'est l'idée, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé comme ça, parce que ça donne cette idée un petit peu de on va se retrouver là, on a toutes nos features là-dedans et on peut partager des informations.
C'est vrai, parce qu'ils ont pu l'appeler The Giant Surface.
Voilà, par exemple. Sauf que.
La surface géante.
Ouais.
Et là, on nous aurait dit qu'on ne peut pas la transporter parce qu'elle est branchée au mur, donc voilà, c'est peut-être pour ça.
Donc 84 pouces, c'est du 4K, le cadeau idéal pour la fête des pères.
Ouais.
Il y a également dedans une version spécifique de OneNote, la version de Skype for Business, c'est quand même spécifique également pour le grand écran. Et dans la démo, ce qu'on voyait également, c'est que c'était vraiment fait pour simplifier tous les scénarios de partage, de collaboration, de partage de notes, de PowerPoint, de s'échanger des petits dessins griffonnés, etc., etc. C'était vraiment assez naturel comme usage.
Last but not least, comme disent les Américains.
Là-bas, c'est le dollar.
Exactement, là-bas, c'est le dollar. La dernière grosse annonce qui a été faite dans cette conférence concerne en fait alors une chose que je pense que personne n'attendait, les hologrammes. Donc les hologrammes, on a effectivement annoncé la mise à disposition d'une paire de lunettes ou d'un casque à voir selon la forme, baptisé Microsoft HoloLens, qui est donc une sorte de casque à réalité augmentée, depuis lequel en fait on va pouvoir manipuler des hologrammes, donc voilà. Des objets en 3D qui vont être et qui vont s'inclure presque naturellement dans l'environnement physique qui est autour de l'utilisateur. Alors je vous laisse un petit peu décrire les scénarios qui ont été montrés.
En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a déjà, on a eu une démonstration d'une espèce de manipulation de quelque chose qui permet de construire des objets en 3D. Mm-hmm. Puisqu'on imagine bien qu'un des objectifs de ça, c'est de pouvoir ensuite imprimer ces choses qu'on crée pour les avoir dans la vraie vie. Et surtout, alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était la démonstration de Minecraft dans la vraie vie. Parce que, ça, c'est vraiment génial de pouvoir se dire que chez soi, comme avant, quand on avait des Lego, où là, on devait les avoir physiquement. Bah sur sa table, on peut se créer son petit univers, on peut se promener à l'intérieur, puis on le voit vraiment. Et donc on n'interagit pas avec parce que c'est de la réalité augmentée, mais quasiment, puisqu'on peut, on a vu, hein, ils ont des manières d'interagir. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais ça a l'air plutôt prometteur de ce côté-là, à la fois dans le jeu et puis dans le monde de l'entreprise aussi, je pense.
Dans le monde de Minecraft, on voit tout de suite l'intérêt. C'est effectivement, autant les Lego, après, il faut les ranger, une fois que tu as joué. Là, c'est beaucoup plus simple, hein. La pièce est propre. Alors pas mal d'industries, je pense, vont pouvoir développer des scénarios autour de cet usage de réalité augmentée, que ce soit des industries, on va dire, très, très techniques, comme par exemple l'aéronautique ou le monde de l'automobile, ou peut-être d'autres industries plus ludiques dans le monde du divertissement. Il y a vraiment plein de choses à faire, et je pense que beaucoup déjà ont des idées qui sont en train de germer.
Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce qui a été annoncé, c'est que ça serait disponible dans la période de temps où on aura Windows 10, ou en tout cas pas très loin. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est pas dans un futur lointain, c'est
exactement
moyen terme, mais c'est vraiment bien.
C'est 2015, ouais. Quoi. Ouais, donc on va 2015, on pourra entre guillemets toucher la bête. Au passage, d'ailleurs, notre collègue et ami David Catu, qui est aux États-Unis actuellement. A pu essayer, lui aussi a eu la chance de pouvoir essayer cette paire de lunettes, et il a été assez bluffé. Il a dit le niveau d'avancement à ce stade actuellement, et c'est vraiment vraiment bluffant. Et rappelez-vous, à l'époque, hein, quand on avait montré pour la première fois Kinect, tout le monde s'est dit oui, la vidéo de présentation, c'était un petit peu du fake, c'était pas ça. Dans les faits, Kinect est sorti très rapidement et répondait réellement à ce qui avait été montré dans la vidéo. Donc, à mon avis, ça va tout changer. Au passage, donc, on va parler d'objets en 3D manipulés. Donc, il va y avoir des API qui vont permettre de construire des applications qui vont consommer tout ça. Bien entendu, tout ça sera implémenté. Ces API seront implémentées dans tous les devices Windows 10. Et clairement, la personne qui a présenté Microsoft HoloLens a invité tous les développeurs de tout ce qui est Magic Leap, les glaces, les Oculus, et également à venir travailler avec ça, parce que finalement c'est exactement ce qu'ils font déjà depuis quelques temps, sauf que là on passe à l'échelle supérieure. On n'est pas en train d'incruster une image, là c'est des hologrammes carrément, quoi.
C'est un sacré morceau de hardware, hein, parce qu'on a évidemment classiquement le GPU, le CPU, on a aussi le HPU, une nouvelle unité, parce que ça brasse tellement des volumes de données incroyables, ce genre de choses, ce genre de
genre de device qu'il a fallu inventer des morceaux pour faire le processing de toutes ces datas en fait. Et puis c'est quelque chose qui est autonome, c'est pas connecté à un PC ou quoi, c'est un PC, c'est une machine en tant que telle, donc on est complètement autonome avec la chose qui est évidemment connectée, mais je veux dire, il n'y a pas de connexion à une autre machine.
Le passage dans les applications, les démonstrations qu'ils ont montré également, ils ont montré entre guillemets un univers où on fait du Skype en fait, en version réalité augmentée, où on a effectivement des objets, des écrans et des vidéos de ces interlocuteurs qui sont projetés. Du coup, je me suis posé quand même la question au passage, c'est que comment nous voit la personne avec qui on fait du Skype ? Est-ce qu'elle nous voit avec un casque ? Parce qu'on la voit bien, elle, derrière sa caméra, mais je me demandais d'ailleurs quel était le rendu.
Est-ce qu'on peut déaugmenter la réalité ? C'est ça.
Ouais, mais du coup, en fait, voilà, je me posais un peu la question en fait, sur ce point-là. Mais je pense que c'était là plus pour un objet de démonstrateur technique qu'autre chose.
En tout cas, ça déboîte pas mal.
Quitte à un technique pour dire que c'est sans bois du bois.
Exactement. Ou du pâté. Bon, ça dépend de.
Donc pour conclure sur cette annonce Windows 10 et matériel, cette double annonce. Disons que les nouveautés concernant Windows 10 arriveront dans la période allant de 3 à 5 mois à partir de maintenant, au fur et à mesure des différentes versions qui seront offertes notamment aux gens qui font partie du programme Insiders, des Windows Insiders, pour lequel on peut s'inscrire sur le site de Windows. Hein. On va mettre tous les pointeurs évidemment sur l'article correspondant à ce podcast, cet épisode.
Plus le lien pour revoir la vidéo, parce que honnêtement, c'est quand même assez impressionnant de voir les HoloLens en action.
Tout à fait. Il vaut mieux avoir l'image pour se rendre compte, c'est sûr. Et voilà, donc n'hésitez pas à tester, à télécharger Windows 10, la version Technical Preview disponible aujourd'hui, à vous inscrire au programme Insiders, et puis pour pouvoir recevoir régulièrement les mises à jour avec toutes ces nouveautés. Donc voilà pour ce premier sujet. Rien à rajouter ?
Non, on a des annonces depuis la dernière fois. Est-ce qu'on avait parlé du client d'iPad pour les workfolders ?
Ah oui, petite annonce intéressante, effectivement. Les workfolders, on en parle beaucoup, nous, dans notre activité. Une fonctionnalité qui permet de synchroniser des fichiers, ces fichiers personnels, enfin professionnels, mais concernant un utilisateur donné,
voilà.
Entre ces différents périphériques. Cette fonctionnalité a été étendue maintenant avec la possibilité de synchroniser ces fichiers sur un iPad. Donc on a sorti un client pour iPad, pour les workfolders. Donc c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, ça marche uniquement en read-only. On peut consulter les fichiers qu'on a dans ce workfolder sur son iPad. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est déjà une belle avancée par rapport au début. Donc on a comme client Windows 8.1, Windows 7 et iPad. Donc dans l'ordre, les clients les plus représentatif de ce qu'on trouve en entreprise aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il est temps de passer à notre principal sujet, donc qui concerne DevOps. Donc, je vais vous laisser la parole à Stanislas et Étienne. DevOps, en deux mots, ben, il y a Dev et il y a Ops.
C'est en deux mots. C'est dans le nom, exactement. Ouais.
On sent bien qu'il y a des développeurs, il y a des IT, les opérations. Qui savent très bien depuis tout le temps que plus ils travaillent ensemble, mieux se déroulent les projets et plus fluide est le process de développement et de mise en production de tous ces projets informatiques qui nous prennent du temps. Hein,
C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des projets ne marchent pas, parce qu'il y a justement, ils ne veulent pas travailler ensemble.
Et donc il y a eu des efforts dans le passé à ce niveau-là, avec des méthodes plus ou moins qualifiées de agiles ou ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, on a une méthode qui a l'air de s'implanter et d'être prise au sérieux par tout le monde, par toute la communauté, que ce soit les développeurs ou les IT. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots de quoi il s'agit et comment, qu'est-ce que vous faites autour de ceci, notamment au niveau présentation, au niveau activité, etc.
C'est même plus qu'une méthode, ou c'est pas tout à fait une méthode, c'est plus un mouvement même d'ailleurs, une espèce de prise de conscience qu'une méthode en particulier, c'est un regroupement de méthodes, on peut même le dire comme ça. Mmh. Mais bon, je pense que le mieux c'est peut-être d'en parler un peu en détail.
Ouais, alors on est parti du concept, enfin pas du concept, pas nous, hein, des gens sont partis du concept qu'effectivement il y avait en gros deux mondes qui se côtoyaient sans forcément interagir bien ensemble. C'était d'un côté des gens qui sont des créatifs, qui créent quelque chose, qui créent du logiciel, hein, basiquement. Hein. Donc les développeurs. Hein.
Les développeurs, les designers, voilà, mais vraiment toutes ces personnes qui créent. Hein.
Et puis qu'on a un autre monde dans l'entreprise ou dans l'univers informatique qui sont les gens qui mettent en production et qui maintiennent l'existant et qui le font tourner. Donc les opérateurs, les ops, les administrateurs. Et que globalement, ben, les échanges entre ces deux mondes sont assez différents et sont assez, pas forcément très fluides pour des raisons diverses.
Il y a plusieurs problèmes. On ne parle pas forcément la même manière, on n'a pas le même vocabulaire, il y a des choses qu'on va appeler de manière différente.
On n'a pas les mêmes acronymes.
Ouais, exactement. Ouais. Donc souvent, ça peut déjà être un problème parce qu'on ne sait pas forcément de quoi on parle. On n'utilise pas forcément les mêmes technos, ce qui est un petit peu bizarre à dire, mais c'est le cas et ça peut poser un problème.
Oui, parce qu'un développeur, il va être orienté sur ses outils de développement, ses outils de test. Oui. Alors que, et se moquera un petit peu derrière de la mise en œuvre en réel, entre guillemets, de son application. Ouais. C'est le classique. J'ai testé, chez moi ça marche, c'est de votre faute.
Ouais. Voilà. Ouais. Et justement, d'ailleurs, c'est aussi un des problèmes de fond, c'est le problème de la responsabilité. En gros, limite les responsabilités, on les cloisonne un petit peu, ce qui fait que si ça marche pas en prod, c'est pas de ma faute en tant que développeur, et s'il y a un bug, c'est pas de ma faute côté exploitation, mm-hmm. côté production. Et ça, c'est souvent, c'est des problèmes qu'on rencontre assez souvent.
Alors par contre, c'est vrai que quand on parle de méthode de travail, réellement de méthode, au sens qualifié, là encore, c'est la prod et la création ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Parce que ils n'ont pas les mêmes contraintes, pas les mêmes besoins, etc. D'un côté, quand on est de la prod, on a plein de méthodes qui existent, qui ont été prouvées et qui marchent dans certains contextes. Des choses comme ITIL, MOF, on parle d'IT Agile également. Donc tout ça, c'est des méthodes qui sont créées et qui ont été conçues vraiment pour être utilisées pour gérer un cycle de vie dans une production, un cycle de vie qui peut être quand même assez long avec des phases de qualification, de test, de mise en production, pré-production, etc. etc.
Et côté dev, c'est aussi le cas, évidemment, on s'organise aussi. Donc il y a eu plein d'évolutions. On est parti de Waterfall ou Cyclon V, on parle plutôt de ça en France. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont dans ce type de fonctionnement. Et puis il y a des nouvelles méthodes qui sont classées agiles, comme Scrum, Kanban ou des choses de ce type-là. Voilà.
Et là, c'est vrai que quand tu me parles comme ça, moi, c'est... je ne sais pas de quoi tu me parles en fait. Tu vois, c'est un autre monde, un autre vocabulaire. Okay. Je précise étant que je suis un peu acquis. Alors, on sait quand même un peu. Il faut être tout à fait clair, dans les entreprises, tout le monde parle quasiment avec tout le monde. Après, il va y avoir des communications qui sont plus naturelles. Par exemple, le chef de projet va parler avec son développeur ou il va parler avec son testeur. Le développeur peut parler avec l'intégrateur. Il peut essayer.
Ça arrive, ouais.
Rarement avec la sécurité. Pas toujours avec les mecs du réseau ou de l'infra, parce qu'en fait, c'est là encore, il y a le problème du vocabulaire. Et même déjà au sein de la création, il y a déjà des unités, des silos qui sont un petit peu autonomes. Hein. Je pense que le développeur et le designer, c'est un petit peu de deux mondes. Hein.
Ouais, et puis même le plus flagrant, c'est développeur-testeur. En gros, c'est le développeur, il fournit son code et c'est le testeur qui doit s'assurer que ça marche. Et puis souvent, le testeur, il est là pour trouver les bugs, alors que le développeur, c'est lui qui les crée, donc on s'entend pas très bien. Il y a déjà des choses qui ont été faites de ce côté-là pour mieux s'entendre. Mais effectivement,
par définition, on génère des tensions dans ces modes de communication. Quand tu as un testeur qui va dire au développeur, tu as fait des erreurs, ça c'est pas bien machin, la forme de la communication peut forcément générer des conflits, etc. Bon, et puis globalement tout le monde parle avec pas mal de monde, mais c'est vrai que ça devient vite un petit peu problématique, et en fonction effectivement des intérêts ou des tâches qui sont faites pour juger le travail d'un autre, ça gère derrière en gros un bout de truc. Et puis une équipe au milieu de tout ça, la pauvre,
qu'il faut pas oublier, la outline.
Voilà, la outline, c'est pas les gens qui sont toujours mis en valeur, mais ils se prennent un petit peu les problèmes parce que ils ont les utilisateurs au final en direct, et puis après ils doivent essayer de savoir vers qui rerouter le problème. C'est là en général où ils se font un petit peu jeter de tous les côtés,
parce qu'en plus ils arrivent avec des problèmes
c'est dommage. Voilà, fort ce constat, le deuxième effet un petit peu qu'il y a entre les IT et les Ops qui n'aident pas finalement dans cet ensemble, c'est toujours la grande problématique de
qui a besoin de qui
et c'est grâce à qui que ça marche.
Ouais. Oui, parce qu'en gros, côté dev, on peut se dire c'est nous qui créons la valeur, c'est nous qui créons le logiciel, puis derrière c'est juste faire tourner un serveur.
Voilà, et de l'autre côté il y a c'est grâce à des serveurs que tu peux faire tourner en fait tes applications.
Oui, ouais, c'est... Donc, au final, voilà, c'est... Et ça c'est quelque chose qui peut tourner en boucle des heures et on n'est jamais d'accord.
Ouais, on peut faire des tonnes de soirées le mercredi.
Exactement.
L'année, il y a 52 semaines par an, on peut faire 52 soirées. À peut-être résumer que tout ça, c'est que si on était très pragmatique, on devrait vraiment, en prenant un peu de recul, se dire que ce soit la création et la production,
les deux sont normalement plus ou moins au service
des utilisateurs, parce que
du business, voilà,
du business et des utilisateurs. C'est, en fait, c'est ça. Il faut qu'on se rappelle et qu'au final, faire de l'informatique, faire du dev, faire de l'exploitation, c'est pas la finalité. Ça, c'est juste un prétexte pour rendre un service.
Exactement.
Voilà. Et on le fait ensemble, et on est censé le faire ensemble, et on a parfois peut-être un peu perdu ça de vue.
Effectivement. Et du coup, ça se fait culturellement, souvent, on entend encore que l'informatique est un centre de coût. Non, c'est un centre de service, en fait.
Exactement, ouais.
Donc, on l'a dit, hein, DevOps, c'est un courant qui existe depuis quelques années. Je crois que c'est à peu près 2009 que ça a commencé. Ça a été, je crois, les mots sont apparus lors d'une première conférence qui a eu lieu en Belgique en 2009. Et clairement, l'objectif de ce mouvement, c'est de réduire la friction entre les deux mondes, création et ouais, opération.
De résoudre les problèmes dont on vient de parler, exactement. Ouais.
Alors, on peut se poser la question, dans quel type d'organisation on peut utiliser du DevOps, et pour quel type de projet.
Oui, parce que est-ce que ça s'applique à tout le monde, ça, c'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Alors, il y a plusieurs types d'organisations qu'on peut identifier. On peut imaginer des gens qui vont plutôt se concentrer sur du web, du mobile, chez qui ça peut être vraiment très intéressant. On a les industries avec des objets connectés, où là, ça va être potentiellement... On peut avoir des complexités liées au fait que l'objet, il est quelque part, il faut faut le mettre à jour régulièrement ou pas, suivant ce qu'on peut faire. Puis on a également les éditeurs de logiciels et les entreprises qui vont fournir des services de cloud, comme justement nous d'ailleurs. Et puis les jeux qui sont un petit peu à part, même si on les retrouve un petit peu partout dans les différentes catégories.
Alors on peut se poser la question de la taille de l'organisation. Est-ce qu'un DevOps, c'est très adapté à une petite structure? Clairement oui, à l'origine, c'est des choses qui ont commencé dans les startups, hein, cet effet de discussion, parce qu'effectivement, dans une startup, on part avec un développeur et on va dire un IT, il faut espérer que les deux se parlent entre eux, d'accord ? Donc c'est très adapté, effectivement, à une petite structure où les gens sont obligés de parler entre eux, de se partager les responsabilités, parce qu'ils ne sont pas 10 000 et il n'y a pas assez de dissolution par des couches managériales, etc.
Puis travailler dans 9 mètres carrés, donc du coup...
c'est vrai que c'est mieux. En fait, les grandes organisations peuvent également adopter du DevOps. Alors, il faut bien s'y prendre, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, on ne transforme pas une organisation hiérarchisée en silo, etc., avec une organisation full DevOps. Mais il y a plein d'exemples qui ont marché. Alors, plus dans le monde du web, avec des sociétés comme Facebook, Amazon, même Microsoft, il y a des exemples avec Microsoft. Oui. Mais des choses comme, par exemple, même des banques, American Express, par exemple, ils ont des processus de DevOps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sur l'ensemble de leur informatique et l'ensemble de leur projet, mais ils commencent à implémenter ce type de démarche, parce qu'il y a un gain, on va en reparler juste après. Les types d'applications concernées, hein, tu as déjà en parlé, mais c'est parfait pour effectivement des choses comme du web, des jeux, du web mobile, simplement parce que le DevOps permet de mettre en production, de déployer plus rapidement, de modifier et de remettre en production plus rapidement, etc. Et c'est un vrai besoin, en fait, effectivement, aujourd'hui, enfin, toute personne qui a une application, enfin, des applications sur mobile, voit que régulièrement il y a des mises à jour parce que ça corrige des bugs, ça rajoute des fonctionnalités pour être mieux par rapport à la concurrence, etc. etc.
Mais il ne faut pas que ça soit trop fréquent, parce que ça, on n'aime pas forcément qu'il y ait sur le mobile, il faut faire un petit peu attention à
voilà,
ça. Il ne faut pas que tous les demi-journées, il y ait une mise à jour qui apparaisse et il nous demande de faire une opération pour avoir
la limite de l'agilité et de la rapidité de mise à disposition, il faut aussi qu'elle soit un petit peu logique, mais ça, je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Alors, les bénéfices du DevOps, si on prend une vision pré-DevOps, on a cette fameuse opposition entre les deux mondes, le développeur.
Vite, mais en prod, tout de suite.
Voilà, et puis de l'autre côté, l'IT, historiquement, qui est quelqu'un sérieux, hein, comme tout le monde le sait,
qui dit attention,
mon gars, ne pas confondre vitesse et précipitation, mon gars, la prod, c'est du sérieux. Et du coup, c'est vraiment toute l'origine de la friction. C'est que d'un côté, on a des gens qui veulent être de plus en plus vite dans un monde qui accélère. Ils disent, oui, même mon code en production, j'ai besoin d'attendre 6 mois pour me déployer. Et de l'autre côté, l'IT qui dit, du calme, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie.
Non. C'est ne pas prendre assez de précautions, VS en prendre trop. C'est un petit peu ça aussi.
Exactement. Et puis, donc, on a pas tout l'heure, la responsabilité. L'approche classique de tout projet historiquement jusqu'ici, c'était on file un cahier des charges aux développeurs, le mec il se met en mode tunnel et ils pondent leur application. Et puis, ils testent leur application sur leur PC.
Sur ce qu'ils peuvent.
Alors, tous les classiques, hein, les bons vieux tests du gars, ben, ça a tout marché.
Ça marche nickel chez moi.
J'étais admin, non ? Ah ouais, j'étais admin. Hein. Mais en fait,
c'est vrai que ça a un impact.
Voilà. Donc, et puis, pareil, hein, les codes développés, effectivement, là, le mon service web, il marche. Hein. Ouais, il marche. Mais par contre, quand on veut mettre trois utilisateurs sur le serveur, ça décroule. Donc, des choses, effectivement, qui. Et ça, c'est du vécu. On l'a tous vu, c'est cas d'exemple. Où entre faire tourner unitairement un code et faire tourner pour des dizaines ou des centaines, des milliers, voire plus d'utilisateurs, c'est pas la même chose. Donc, du coup, dans l'approche DevOps, on a cette notion effectivement de jouer sur la responsabilité.
Ouais. Et qu'au final, tout le monde, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, l'objectif, on a tous le même objectif, on est tous dans le même bateau, on veut tous aller dans la même direction, donc autant le faire correctement et se partager ses responsabilités et tous les assumer en fait.
C'est un peu ça, en fait, le principe de mettre tout le monde dans le même bateau, c'est que c'est pas, quand il y aura un problème, c'est pas, on va pas dire c'est de la faute de la prod ou c'est de la faute du dev. C'est-à-dire que les deux sont obligés de faire fonctionner le truc au final. Voilà. Un exemple assez intéressant, c'est celui d'Amazon. Amazon, ils résument leur phrase assez bien pour leurs équipes DevOps. Ils disent « You build it, you run it ».
Tu remarques. Si tu fais, t'assumes.
Voilà. C'est en gros, tu peux également dire tu gères tes conneries.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ça marche aussi.
Mais du coup, comme ça, une équipe en fait de DevOps, quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, ben on tape sur toute l'équipe. Ouais. C'est ça. Et du coup, alors, on déduit très facilement les intérêts d'adopter cette fameuse démarche.
Ouais, déjà, un des premiers. L'objectif, c'est d'augmenter la compétitivité déjà, donc ça, on le fait de plusieurs manières. On va réduire le cycle de mise en production, puisque si on arrive à s'entendre mieux, potentiellement qu'on peut mettre un trajet plus fluide entre le code et le moment où c'est dispo à l'utilisateur. Et plutôt que de faire un espèce d'effet Big Bang à chaque fois qu'on fait un ensemble monomodif parce qu'on est obligé de tout le monde se mettre d'accord, ça prend du temps, et là on a paf d'un coup une V3 qui sort au bout de 3 ans, ben on a des petites évolutions, ouais. Un petit peu comme ce dont on parlait tout à l'heure avec Windows, où on a des choses qui vont maintenant arriver progressivement et petit à petit, et on fournit aux utilisateurs des choses progressivement.
Et petit à petit, l'oiseau fait son nez.
Tout à fait.
Un bel exemple d'ailleurs, c'est. On parle de concurrence, de compétitivité et de mise à disposition d'une approche plus fragmentée. Prenons le marché de navigateurs. Pourquoi en fait Internet Explorer a perdu des parts de marché versus Firefox versus Chrome ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on sortait en gros un navigateur pour chaque nouvelle version de Windows, donc une fois tous les 3 ans approximativement. À côté de ça, Google s'est dit, est passé dans un rythme très rapide tout d'un coup. Ils se sont dit, nous, tous les 60 jours, on va sortir une nouvelle version de Chrome. En mettant des petites nouvelles fonctionnalités, en changeant 2-3 petits trucs. Mais du coup, ils se sont mis à relancer plein de versions. Et donc, constamment, en fait, le produit évoluait beaucoup plus vite. Ce qui était d'ailleurs exactement la démarche qu'on avait eue à l'époque, quand on était dans la guerre Netscape versus Internet Explorer, où Netscape n'avançait plus entre sa version 3 et sa version 4. Et nous, on avait les versions 3, 4, 5, 5, 5 et 6 de l'IE qui sortaient. Donc, on était dans une release plus rapide avec plus de fonctionnalités qui tombaient. Et on a arrêté de faire ça. Google s'est mis à faire en fait des versions réalisées très rapidement. Firefox, Mozilla derrière a dit nous on va faire pareil, donc ils sont mis dans un cycle également de 60 jours. Et du coup, on s'est retrouvé avec un navigateur qui bougeait une fois tous les 3 ans, ou une fois tous les 2 ans peut-être avec Internet Explorer, versus d'autres qui avançaient plus vite. Ils étaient en fait déjà dans une démarche DevOps. Et là, on a très bien vu, du point de vue concurrentiel, que ils ont pris de l'avance. Et ils ont pris de l'avance, et du coup, ils ont gagné des utilisateurs. Et puis voilà, on connaît l'histoire.
C'est clair. Et puis surtout, ça permet de se mettre dans un mode où on améliore le produit au fur et à mesure. Dès qu'on a un feedback, on peut réagir tout de suite. Et du coup, on est plutôt dans un mode où on va améliorer en continu le produit qu'on fournit aux utilisateurs. Et donc, c'est vraiment. C'est beaucoup mieux que d'attendre chaque fois 3-4 ans. Quoi.
Donc, on a compris, si on fait des petites releases, on réduit le coût de mise en production parce qu'on fait pas des grandes marches qu'on fait, mais on fait plein de petites marches. Du coup, on répond plus rapidement aux besoins des clients, et ça c'est important, le besoin des clients, parce qu'on va en reparler juste après. On est à l'écoute dans une démarche de DevOps des clients, et on doit résumer tout ça en disant on est plus compétitif.
Ouais.
Donc c'est vraiment c'est un vrai retour entre guillemets business. Alors différentes études donnent des chiffres là-dessus. On vous laissera en consulter sur internet, mais par exemple effectivement certaines études qui avaient été faites par Computer Associates, montraient que sur les clients qu'ils avaient interrogés sur leur étude, etc. C'est à peu près 1300 clients. Ils avaient remarqué le fait de passer en DevOps pour certaines parties, ils avaient eu un gain de 20% entre guillemets d'amélioration sur la mise en fait sur le marché de produits.
Et puis surtout 20% de revenus en plus, donc ça a un impact directement sur ce qu'on gagne, voilà. Ce qui est quand même le but aussi un peu de créer un produit.
Voilà. Alors, du coup, la question qu'on veut se poser, c'est Étienne, Stanislas, vous nous avez mis l'eau à la bouche, mais comment on fait pour commencer à faire du DevOps ? Bon,
De quoi ça s'agit, comment voilà, on fait,
c'est quoi les prérequis, 1, 2, 3, et puis on y va. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faut des méthodes dev agile, est-ce qu'il faut des méthodes IT avant déjà dans l'entreprise, et puis on fusionne les deux. Alors c'est peut-être un petit peu plus...
De manière peut-être très, très simple, en fait, si on résume un petit peu les différentes méthodes qu'il y a eu de travail côté développement, on est passé d'un mode qui ne va pas du tout en DevOps, qui est un mode dans lequel on a un effet tunnel, c'est un peu la méthode dans l'ancienne, on a un énorme cahier des charges, on dit voilà ce qu'on doit faire, et bah, ça met 3 ans à sortir, et du coup au bout de 3 ans, bah, le cahier des charges il n'a pas évolué, pourtant les besoins des gens évoluent entre temps, et donc c'est pas adapté.
Et on sort ce qu'on appelle techniquement une grosse bouse à la fin.
Exactement, voilà, en carton avec du scotch, ça tient pas très bien. Et alors après, on s'est dit, bon, on est quand même pas resté là-dessus, on s'est dit, on va peut-être essayer d'améliorer ça, et on a découpé un petit peu plus ce cahier des charges. Donc il évoluait entre-temps, mais on avait fait des espèces de mini-effets tunnels, donc on avait reproduit le problème, donc plutôt que de faire une grosse bouse, comme tu disais, on en faisait plusieurs petites, progressivement les unes après les autres. Et ça, il y a un truc qui est sûr, hein, c'est que du mauvais plus du mauvais, ça fait toujours du mauvais. Donc voilà. Donc, et puis est arrivée une nouvelle manière de penser, puisque en fait, les méthodes traditionnelles de programmation, c'est une métaphore du BTP, donc on a maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, ce genre de choses, et ça fonctionne très bien quand on construit un bâtiment. De toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas créer le toit avant de créer les fondations. On
est normalement non, ceux qui ont essayé, il paraît qu'ils ont eu des problèmes,
exactement, ouais. Et alors que quand on est dans du développement, on peut le faire, ce genre de choses, et surtout on peut s'adapter, on peut se dire finalement on va pas faire les vides de telle manière, on les fera autrement, on peut le changer. Et en fait, les personnes qui ont imaginé la méthode qui s'appelle Scrum, qui, vous le savez peut-être pas, en fait est une métaphore du rugby. Scrum voulant dire la mêlée au rugby, et le principe c'est de se dire, bah, alors quand on joue à un sport, l'objectif c'est de gagner, on gagne pas toujours, bah, ça, voilà, mais par contre on a pour objectif de gagner, et on sait pas à l'avance qu'à telle minute du match l'adversaire va être là, moi je serai là, on peut pas le définir à l'avance. Alors c'est ce qu'on essaye de faire avec un cahier des charges.
Donc là tu es en train de me dire qu'il va y avoir un système d'adaptation à la demande et en fonction du contexte.
Exactement, l'idée c'est de se dire, comme au rugby, on avance un tout petit peu. Donc on se fixe un objectif fixe, on le fait, on s'arrête, on regarde ce que ça donne, et là on adapte peut-être la direction et on avance. On fait des sprints comme ça progressivement, et ça peut être assez court, plus c'est court, mieux c'est.
D'accord, et donc en gros, chaque fois qu'on s'arrête, ce qui va se passer dans le mode DevOps, c'est qu'on va écouter ce que demande l'utilisateur.
Exactement.
Ce qu'on appelle un backlog dans le langage, voilà. Si je dis pas de bêtises.
Et d'ailleurs, c'est utilisé un peu partout, hein. C'est dans le backlog, ce genre de choses. Ça...
D'accord, donc le fait d'écouter plus régulièrement des petits besoins fait qu'on peut changer de direction régulièrement et réorienter réellement le développement par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'utilisateur et ses besoins.
Et ça, c'est le prérequis. C'est-à-dire que là, on arrive à fournir des petits bouts de logiciels au fur et à mesure. Donc du coup, après, on peut les déployer, ces petits bouts, progressivement.
Et entendre la voix de l'utilisateur, c'est pas neutre. Et on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle des user voice, où l'idée, effectivement, c'est quand on veut faire ce type de développement, on met en place des mécaniques qui permettent aux utilisateurs de remonter leur information en disant « Ah, moi, j'aurais préféré ça, moi, je voudrais ça, les trucs, etc. » Et donc, quelques exemples, c'est que, par exemple, dans nos produits, on a la possibilité, chez Microsoft, par exemple, en tant que client, de dire « Moi, sur tel produit, j'aimerais bien ça ou j'aimerais ça comme amélioration. » Et nos équipes produits regardent ça, en fait, et s'en servent également pour choisir la direction vers où ils vont aller. Alors, rapidement, avant de terminer, par où on commence pour vraiment faire du DevOps, parce que là, on était vraiment sur une introduction.
Ouais. Donc la première chose, c'est qu'il faut penser à améliorer, enfin l'amélioration continue. Mm-hmm. Donc il faut vraiment se mettre dans ce mode-là et se dire que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on fait un état des lieux très factuel. On se dit qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien, est-ce que ça nous permet de le faire, est-ce qu'on est en agile côté dev ou pas, est-ce qu'on est agile entre guillemets côté infra également, est-ce que c'est possible de le faire.
Et puis peut-être le conseil, c'est de commencer par un périmètre qui soit réduit. C'est-à-dire soit une application donnée, soit un espace géographique, c'est-à-dire des équipes qui sont côte à côte, c'est déjà toujours plus simple. Et commencer par une petite révolution et passer de mettre le bazar dans l'ensemble de l'organisation, parce qu'on sait que les grands chantiers comme ça en général ne marchent pas. Parce que rien que d'organiser la réorganisation, c'est le début de la fin. Importance des feedbacks, hein, clairement.
Oui, parce qu'en fait, mettre en place une méthode et des outils, il ne faut pas juste les catapulter et puis attendre que ça fonctionne bien. L'idée, c'est vraiment de se dire, on fait ça, par contre, on vous écoute derrière, tous les utilisateurs. Là, je parle des utilisateurs, les développeurs et les personnes de la production, pour améliorer toujours ce qu'on fait.
Ça me rappelle un peu la fameuse boîte à idées.
Exactement.
Ouais. Sauf qu'elle termine pas à la benne, celle-ci.
Voilà. Celle-là, on l'écoute.
Alors, du coup, on n'a pas parlé de technologie, mais on n'en parlera pas trop, en tout cas. C'est juste dire que le DevOps, en fait, c'est. Souvent, beaucoup de gens pensent que le DevOps, c'est simplement du déploiement continu, et qu'en gros, avec 2-3 outils de déploiement, un dev qui se parle, ça suffit. En fait, ça va un petit peu plus loin, et il n'y a pas que ça. Il y a différentes phases qui existent, les phases dites de build.
Oui, avec différents outils. Donc chez nous, à côté, voilà, c'est plutôt Visual Studio Online, ce genre de choses. On a d'autres outils au fur et à mesure.
Donc effectivement, l'intégration continue. Et puis on a tout ce qui est automatisation des configurations, le maintien des états à configurer. Je vous en renvoie, je vous propose d'aller voir d'ailleurs le podcast précédent qui parle de PowerShell et probablement PowerShell DSC, qui fait partie justement, qui s'intègre là-dedans, dans cette notion d'automatisation des configurations et de maintien d'un état souhaité.
Et l'automatisation des tests aussi, puisque c'est important pour être confiant dans ce qu'on met en prod.
Bien sûr. Et vu qu'on va répéter régulièrement de nouvelles releases, il ne faut pas la peine de réinventer la roue non plus. Si on a des tests qu'on peut automatiser, gagner du temps, c'est gagner de l'argent. De surveiller un petit peu comment ça se comporte et de prendre justement les feedbacks, c'est important.
Et surtout, la base de tout, d'avoir quelque chose qui nous permet de contrôler le code, dans le sens où on peut revenir en arrière dans les versions, avoir plusieurs versions en parallèle. Donc ça, c'est très classique, les contrôles de code source.
Voilà. Donc, pour résumer en quelques points, en quelques verbes, ce que c'est que DevOps,
c'est rassembler et collaborer. Tout le monde est responsable, il n'y a pas des responsabilités séparées, cloisonnées.
Effectivement, c'est si un problème, le développeur ne peut pas dire « Non, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'IT », au bout d'un moment, il sera embarqué également avec lui, ce sera fini. Et puis, du fait qu'on doit gagner du temps et être rapide, effectivement, il faut outiller, il faut industrialiser, il faut vraiment savoir déployer en continu avec des outils qui sont vraiment bien prévus, quoi.
Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'outils, mais c'est important. Tout ça, il faut que ça s'appuie sur un outillage qui fonctionne bien et qui est bien pensé à l'avance.
Ouais. N'a jamais oublié que le DevOps, c'est avant tout orienté business et demande des métiers. C'est fait pour gagner de l'argent. D'accord. Ouais. On est à l'écoute également des métiers. Et on est à l'écoute, effectivement, de ce que ça rapporte. Voilà. Et puis, comme on est sur du cycle, il ne faut pas avoir peur effectivement d'être en perpétuelle évolution, de se remettre en cause et de changer des choses qui ne vont pas. Du premier coup, un DevOps, c'est pas je trouve une solution, une méthode, et puis j'en change plus après. Parce que du coup, on est à l'inverse
de ce qu'on veut faire.
Voilà. Et je pense qu'on a résumé assez rapidement, j'espère pas trop longuement, un petit peu ce qu'on voyait, nous, derrière DevOps. Au-delà d'un mot un peu marketing.
Est-ce qu'on t'a convaincu, Pascal ?
Merci beaucoup pour cette introduction. Convaincu, je l'étais déjà. Mais ça va nous intéresser, ça va intéresser tout le monde. Et j'espère qu'on mettra, je pense qu'on mettra sur l'article les bons liens pour nous permettre à tout le monde de débuter ou d'approfondir un petit peu les connaissances autour de DevOps. Je pense qu'au Tech Days, vous avez des sessions concernant DevOps, au moins une.
Alors oui, un petit peu plus. On en fera au moins une à Nike et Dev, ce qui sera une introduction. Ouais. On va un petit peu plus élaboré que ce qu'on a raconté ici.
Voilà, et après il y a une dizaine de sessions derrière, plutôt sur de l'outillage, sur différents aspects, côté IT, côté Dev.
Tout à fait.
Voilà. Et on raconte l'histoire aussi d'un personnage qui s'appelle John, qui monte une start-up qui est un réseau social pour les chats. Et je pense qu'on mettra le lien aussi, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. On mettra certainement sur...
N'hésite pas à me donner le lien, je le mettrai sur l'article. Donc merci Étienne, merci Stanislas, merci Arnaud.
Merci.
Pour ce débrief sur les annonces autour de Windows 10 et cette partie sur les DevOps. Et puis je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines où il y aura un podcast dédié à un sujet infra, un vrai sujet IT comme on les aime, n'est-ce pas Arnaud ?
Exactement, on parlera de cloud privé, on parlera de Microsoft et on parlera d'OpenStack.
Merci à tous.
À bientôt.
À bientôt.